les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Et en ce jour férié, eh bien, pas de problème de mathématiques, mais les enfants vont apprendre à partir d'une chanson traditionnelle de leur village, de leur communauté. Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour à tout le monde.
Vous avez décidé donc de faire chanter tout le monde aujourd'hui, dans l'émission.
Il y a plus moi même, oui.
Donc une séance d'école à la radio pour toutes les générations. Mais bien sûr, les parents, vous pouvez évidemment aider les plus jeunes. Sarah, vous êtes suisse-allemande et j'espère que vous allez nous chanter un petit extrait d'une chanson de vos belles montagnes.
Bien sûr.
C'est prévu. Bon, vous êtes en tout cas l'enseignante de l'école à ciel ouvert aux éditions La Salamandre. Et c'est dans ce livre que l'on retrouve une partie de votre méthode d'enseignement, beaucoup à partir du jeu, hein, je crois qu'on l'a compris, et qui vous inspire pour l'école à la radio. Ensuite, il y aura un conte, L'arbre à merveille de Vincent Nomo aux éditions Acomamba. Et enfin, le coach Didier Acouété répond à des questions d'entrepreneurs. Aujourd'hui, le Covid-19 peut-il être une opportunité pour monter des partenariats. Et bien sûr, vos questions, vos réactions, vos témoignages sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. L'émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac et puis Nicolas Benita et moi-même en studio. Voilà, je vous ai presque tout dit et bientôt on va vous écouter.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Bonjour école à la radio, bonjour Emmanuel Bastide. Je m'appelle Miracle Sarabandi. J'aime beaucoup suivre votre émission, surtout que je suis à la maison jusqu'au mois d'août. Ça me fait du bien, merci.
Et miracle, mon petit doigt m'a dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Tu as 8 ans, voilà, en direct, un joyeux anniversaire qui va jusque chez toi, à Cotonou, au Bénin. Très joyeux anniversaire, miracle. Des messages de réaction sur les jeux de votre enfance suite à l'émission d'hier. Comment fabriquer son propre jeu avec ses règles? Issatou à Banjoul en Gambie nous dit « Ah, c'était formidable de jouer avec ses enfants. Nous montrons à nos filles les jeux auxquels on jouait lorsque nous étions enfants. » Et puis il y a aussi ce témoignage.
Bonjour Emmanuel, je m'appelle Aossi, j'appelle depuis Thiès au Sénégal. Moi quand j'étais toute petite, 5 ans, 6 ans, je confectionnais mes poupées à la main avec du matériel récupéré, deux bâtonnets servant pour le corps que je nouais, les deux bâtonnets donc je prenais le temps de les nouer sous forme d'épouvantail. Ensuite je ramassais des morceaux de tissu par-ci par-là pour habiller mes poupées. Et j'étais vraiment heureuse après ça et je jouais dans mon coin. C'était pareil pour tous les enfants de mon âge à l'époque. Les garçons réalisaient des vélos en fil de fer, des voitures en carton, etc. Donc Emmanuel, la leçon à retenir ici, c'est cet esprit créatif qui émane de l'enfant à cet âge. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup.
Merci Awa. En effet, comment deux bâtons et un morceau de tissu peuvent faire naître un personnage? C'est la magie de l'imagination. Zoé à Yaoundé, quand j'étais petite, on fabriquait avec de vieux pneus de mobylette et un bâton un jeu roulant. Avec le bâton, on tape sur le pneu, ça, on a vu ça tous partout. Hein. Pour le pousser, on le fait avancer, on court en même temps qu'on tape sur le pneu. Et on faisait des courses avec les autres amis du quartier. Jean à Libreville au Gabon, moi ce sont les voitures avec les boîtes de sardines vides. Je me servais des capsules de bouteilles où je coupais des sandales pour faire les roues. On a reçu de très très nombreux messages comme ça. Je pense que Sarah, ça évoque aussi des choses que vous fabriquez avec les enfants.
Ben, c'est ça, exactement. Ben, nous, on fait les poupées avec du matériel qu'on trouve dans la nature, hein, avec de l'herbe, avec ben, les capsules de coquelicots qui font des tout petits visages et tout voilà.
Ouais, d'accord. Et l'herbe, ça fait une jupe en pagne, hein, finalement,
l'herbe,
à frange.
L'herbe, ça fait le corps ou la jupe, exactement.
Jean, voilà, j'ai lu le message de Jean. Eh bien, c'est parti, on va se mettre au boulot. Parce que non, j'ai dit qu'on allait chanter, mais on va aussi un peu apprendre, vous allez voir. 33 1 84 22 71 71. Ça, c'est pour continuer de poster vos messages.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
L'école à la radio, on a annoncé des chants à partir des chansons traditionnelles, mais il y a désormais ce petit rituel avec vous, Sarah Vauquier. Nous retournons tous les matins dans notre espace nature personnelle.
Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est un poème que vous allez produire dans votre espace nature personnel. C'est tout simple. Laissez-vous juste inspirer par votre espace nature personnel. Regardez, fermez les yeux aussi, écoutez, sentez. Vous pouvez y être et sans rien faire. Et je suis sûre que tout à coup, une pensée, une idée, ou voire un mot, une phrase va vous traverser. Écrivez-la sur une feuille et puis envoyez-nous vos impressions.
Ça peut donner, pourquoi pas, naissance d'ailleurs à un poème, hein, bien sûr.
C'est ça, ouais. Ça ne doit pas forcément se rimer, hein. Ça c'est pas important. L'important c'est que vous pouvez exprimer ce que vous sentez, vous voyez, vous écoutez, ce qui vous traverse l'esprit tout simplement.
Voilà. Il faut prendre ces quelques minutes dans le silence, dans cet espace nature personnelle, rien qu'à soi, un petit bout, un coin dans la maison ou dans la cour où on se sent bien, comme vous nous le dites chaque matin, Sarah, et qui devient son petit coin à soi. Allez, maintenant, on enchaîne avec donc des recherches sur une chanson traditionnelle.
Tout à fait. Je me réjouis particulièrement aujourd'hui pour cette leçon parce que je ne suis pas enseignante et psychologue, je suis aussi musicienne et mon métier est un peu en confinement pour l'instant. Je me passionne pour la musique ancienne suisse et son histoire, alors vraiment de très tôt, de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge.
Et oui, ça parce qu'il faut bien rappeler aux enfants, Sarah, que les hommes, les femmes, de tout temps dans l'histoire de l'humanité, ont toujours, toujours chanté dans toutes les cultures.
C'est clair, hein, c'est aussi comme le jeu, quelque chose qui est inné, qui est très important pour l'humanité, hein, de chanter ensemble aussi. Et puis, bon, en Suisse alémanique, ben voilà, où j'habitais il y a 3 ans, au pied des montagnes, j'habitais dans un petit village avec peu d'habitants, mais beaucoup de vaches, beaucoup de terrain. Et ce village, il s'appelle Kukisberg. Et Kukisberg, ce village, est connu dans toute la Suisse alémanique. Pourquoi ? À cause d'une chanson traditionnelle. Et cette chanson, elle s'appelle Kukisberger Lied ou bien Zfreneri am Kukisberg. Je vous raconte l'histoire en français. C'est une histoire d'amour triste entre le Zfreneri vom Kukisberg, ça c'est la fille qui habite à Kukisberg, et Simmes Hans Jockeli Ernetenberg, le garçon qui habite derrière la petite colline de Kukisberg. Et puis maintenant, je vais vous chanter la dernière strophe de cette chanson traditionnelle, bien sûr en suisse allemand. Écoutez bien. Das Mühli Radi Sproche, Simmeli Berg. Das Mühli Radi Sproche, Simmeli Berg. Und Vreneli am Guckisberg, und Simmes ans Jockeli Ernetenberg. Das Mühli Radi Sproche, die Liebe hätte Sand.
Merci Sarah Vauquier, vous nous faites presque autant d'effet hein, que cette chorale. Vous êtes à travers le téléphone, merci pour cette belle voix et pour ce chant traditionnel à partir de votre village, Kukisberg donc.
C'est ça, exactement. Et puis, le texte que je vous ai chanté, ça parle d'une roue de moulin. Un moulin qui ne moue que de l'amour, la nuit et le jour. Et ma strophe, elle raconte que cette roue du moulin s'est cassée. Et enfin, l'amour trouve sa fin. C'est très triste.
Oui, en effet. Alors, vous nous aviez dit au début de l'émission qu'on allait aussi danser.
C'est ça. Et puis, moi, ce que je vous ai chanté, et puis la chorale traditionnelle que vous avez entendue, c'est peut-être pas très péchu, hein. Pour moi, en tout cas, pas, et pas très inspirant pour une chorégraphie de danse. Donc, je vous ai choisi une autre version de la même chanson en instrumental, et cette fois-ci avec une petite inspiration du Balkan. Elle vient du groupe suisse Traktor Kestar.
Sarah Vauquier, alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la même chanson, mais complètement transformée.
Exactement, et ça, c'est autre chose. Et ça, je trouve, ça fait bouger le corps. Hein.
Ah ouais.
Et le français, vous connaissez peut-être la version de Stéphane Aïcher, qui est très connu en France, et
ouais.
En Suisse alémanique aussi.
Mmh. Ouais, alors nous, on dit Stéphane Aïcher hein, chez nous, mais vous, vous avez
Aïcher,
raison.
Ah
Stéphane
oui,
Aïcher.
Bon. Donc, juste pour vous dire, si... Même si une chanson ne vous semble pas adaptée pour une chorégraphie de danse, elle peut bien l'être quand elle change un peu de style.
Oui, ça veut dire qu'on pourrait faire du rap sur une chanson super
alors,
traditionnelle qui a plusieurs siècles.
Hein, vous pouvez l'interpréter à votre façon, à votre sauce, cette chanson traditionnelle.
À mon avis,
et
ça va donner des idées.
De
ça va donner. Et oui, ça va donner des idées aux enfants, à mon avis. Hein.
De
reprendre une chanson traditionnelle, la revisiter avec peut-être un autre type d'instrument aussi et un autre rythme, parce que c'est aussi le rythme hein, qui va prêter à une chorégraphie ou pas.
Tout à fait. Et puis, chez vous, ça sonne comment, les chansons, les chants traditionnels? Est-ce que vous connaissez des danses, en fait, traditionnelles qui vont avec?
Alors, ça tombe bien. Vous savez, on a fait passer le message depuis ce matin tôt. Reza, un voisin en Iran, nous dit « Bon, malheureusement, j'ai pas une bonne voix. Vous risquez de perdre votre audience si je chante. » Mais on fait pas on fait pas un concours de chant parce que, de toute façon, là, ça y est,
ah
on est battu avec Sarah Vauquier qui travaille beaucoup sa voix et qui a une très belle voix. Mais allez, on va écouter Salimata.
Bonjour les voisins. Je m'appelle Salimata Sissoko, j'habite en France, je suis présidente de l'association Maman Sans Frontières. Je suis originaire du Sénégal, Mali pour ma mère et Sénégal pour mon père. Donc je vais vous raconter une histoire et après une petite chanson. Lorsque nous étions petits, pendant le ramadan, les enfants allaient de maison en maison chanter pour récolter les fonds et les graines du mil, de tout ce qu'une famille peut donner. Et on mettait de côté jusqu'à la fin du ramadan. Et nous faisions la cuisine pour aller donner à la vierge sorcière qui, à l'époque, il y avait beaucoup la mortalité infantile. Les mamans croyaient que c'est la vieille qui venait la nuit prendre tous les enfants. Et la chanson qu'on faisait pour aller donner à la vieille sorcière, c'était « Bagawa ininyoroye, sango san enankeneto, kurne mariko ininyoroye, sango san enankeneto. » Et puis après, on lui donnait à manger et nous courions pour rentrer chez nous pour qu'elle ne nous rattrape pas. Et voilà la petite chanson pour la vieille sorcière. Bon courage les enfants.
Ah oui, comme quoi une chanson peut être bien utile pour se prémunir des sorcières, hein, n'est-ce pas Sarah Vauquier?
Ah, tout à fait, là on entre dans l'histoire, hein, dans la mythologie aussi. Hein.
Allez, on écoute Francisca.
Bonjour cette milliard de voisins, je m'appelle Omgue Francisca. Pour la chanson traditionnelle, je vais interpeller de Nedji en ma langue qui signifie les femmes. Djenja nomba, djenja kekelo. Denjeku mundu, deneni kambaje, jenja noba, deneku bebija, deneku mbala, denemba nanaje, deneje togle si undalo, mamanje togle si ya, konanemje togle si undalo, deneje togle si undalo. Maman, j'ai tant que le signal. Qu'on a nommé, j'ai tant que le signal. Ça veut dire en ma langue que pour toutes les femmes qui sont au foyer, nous pleurons pour elles. Merci.
Oui, bonjour les amis de 7 milliards de voisins. Bien, moi je suis Adiadou Koku Jérôme, précisément du Togo. et ma chanson traditionnelle et le gazo qui est ici. Oh Amouga, oh Amouga, oh Yoga, Gamoto, oh Yagueta, Gueta, Tonamlo, Amouga, oh.
Bravo à vous, Francisca, 10 ans, hein. Vous avez vu comme elle chante bien, Sarah, 10 ans, et donc c'est chanté en Gambaye, qui est une des 150 langues que l'on trouve au Tchad. Désolée, on a reçu ça vraiment ce matin et on n'a pas eu le temps de faire suffisamment de recherches. Kaku aussi, qui est à Lomé, donc chanson togolaise de la région du Yoto. En tout cas, c'est vraiment une mine infinie de curiosité, tous ces chants traditionnels, même si dans le fond... Partout dans le monde, ces chansons racontent toujours un peu les mêmes choses. Alors bien sûr, il y a les histoires d'amour, mais beaucoup d'histoires autour de l'agriculture, parce que c'était la préoccupation centrale, hein, de se nourrir. Donc il fallait cultiver, donc c'était des chants qui aidaient aussi à se donner de la force quand on travaillait au champ, qui était un travail pénible, etc. Et finalement, quelles que soient les cultures, on retrouve ces points communs dans ces chansons traditionnelles.
C'est ça, tout à fait. Et puis aussi, parfois, pour donner le rythme du travail, hein, quand on chantait, eh bien, aussi pour se faire plaisir, pour se sentir en communauté, mais aussi pour travailler dans le même tempo.
Exactement, avec des outils qui sont difficiles à manier. Alors, qu'est-ce que vous suggérez comme travail, comme recherche pour les enfants à partir de cette curiosité ?
Eh bien, c'est très simple. Après l'émission, allez à la recherche d'une chanson traditionnelle. Peut-être que vous avez besoin des adultes pour trouver toutes les paroles de la chanson. Et puis, vous les enfants, vous allez apprendre cette chanson par cœur et puis le chanter ensemble avec votre famille ou pour vos parents. Et pour nous, en fait, vous allez traduire cette chanson en français parce qu'on ne va pas comprendre toutes vos langues. Et vous ne comprenez peut-être pas le suisse allemand non plus que j'ai chanté. Et puis, comme on a entendu maintenant déjà, vous pouvez aussi vous enregistrer en chantant une partie de la chanson et puis en nous disant qu'est-ce que cela veut dire en français ce que vous avez chanté.
Alors attention, quand vous dites traduire la chanson en français, c'est pas juste le sens global de la chanson, de dire c'est l'histoire d'un cultivateur. Non, c'est vraiment mot à mot, chaque phrase.
Oui, alors c'est
ça, va vous prendre du temps.
Oui,
c'est vraiment un vrai travail scolaire, hein, de chercher à connaître le sens de chaque mot. Si peut-être que vous ne comprenez plus cette langue de la communauté, mais peut-être aussi que vous la parlez très bien et donc vous n'aurez pas de difficultés, vous n'aurez pas besoin d'aller demander à des membres de la famille. En tout cas, appliquez-vous pour faire cette traduction la plus précise possible.
Exactement, c'est ça. Et puis, si vous êtes français, vous chantez en français, vous allez traduire en anglais, en espagnol ou en allemand. Hein. Comme ça aussi, un petit exercice pour vous. Et pour les plus âgés, les 8-10 ans, vous allez aussi écrire la chanson et sa traduction en français sur une feuille. Et puis, les questions historiques, ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous enquêtez, vos parents, vos grands-parents, sur d'où vient cette chanson, qu'est-ce qu'elle signifie et puis à quelles occasions on la chante, mais comme on a entendu le témoignage avant.
Alors, on va reposer bien les questions pour que vous ayez le temps de les noter, les enfants, et chercher ensuite les réponses. Hein. Que signifie, donc, après la traduction, que signifie cette chanson ? D'où vient-elle ? Et à quelle occasion était chantée cette chanson ? Et puis, bien sûr, toutes les autres informations que vous pourrez trouver sur cette chanson, vous les cherchez, vous les notez bien. Sarah, vous nous avez quand même intrigué avec votre chanson connue dans toute la Suisse alémanique qui vient de votre village Guggisberg.
Bien sûr, moi j'ai fait mes devoirs, je me suis inquiétée sur l'historique de cette chanson qui pour moi, en fait, qui chante du médiéval, normalement elle est très jeune, elle a à peine 300 ans. Et puis dans le village, mais on sait, dans les archives du village, on a trouvé que le garçon, le Simas Antiokli, le héros tragique de l'histoire, il est mort en 1736. Et puis on se dit encore au village que le Freneli, la fille, hein, qui reste une légende, on n'a pas d'archives sur elle, elle habitait dans une ferme à côté de l'ancienne école maternelle de mes filles. Et en temps de guerre, au 19e, 18e siècle, cette chanson, elle était interdite parce qu'elle faisait déserter les soldats qui avaient tout à coup l'ennui, ils voulaient retourner en Suisse et ils l'ont fait.
Oui, c'est ça. Ça faisait en fait naître une nostalgie terrible.
Exact.
Voilà. Et alors, comment on passe du chant à la chorégraphie, hein? La chorégraphie, alors on va expliquer ce mot. Je pense en particulier à une maman qui est à Bangui, en Centrafrique, et qui nous dit « J'ai repris le travail et donc mes enfants là sont seuls et quand ils écoutent l'école à la radio, si je ne suis pas là parfois pour expliquer le sens de certains mots, ça devient difficile. » Donc, petit message et un coucou tout spécial pour les enfants qui sont tout seuls aujourd'hui. Une chorégraphie, on va expliquer le sens de ce mot, c'est l'agencement de différents gestes qui donnent une danse. On est d'accord, c'est comme ça qu'on pourrait définir la chorégraphie, Sarah ?
Oui, c'est en fait très simple. Vous inventez une danse qui va bien sur la mélodie de la chanson après que vous l'avez déjà appris par cœur en chanté et que vous l'avez noté. Donc, vous faites les mouvements qui vont avec. Bien sûr que vous pouvez vous inspirer des danses traditionnelles de chez vous, mais vous pouvez aussi inventer quelque chose de complètement nouveau.
Mmh. En vous inspirant, par exemple, de ce que vous voyez sur Internet, hein, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas déconnectés des différentes danses. Et pourquoi ne pas créer votre propre danse à partir de cette chanson traditionnelle? Mais attention, une chorégraphie, ce sont des mouvements que l'on va peut-être noter sur un papier ou faire des dessins pour pouvoir la reproduire. Ce n'est pas juste une improvisation, on est d'accord, Sarah?
C'est ça, le plus simple c'est de les répéter en fait, pour les intégrer vraiment dans le corps, que vous savez dans votre corps qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis je dois vous dire, sur la chanson de Cookie Speck, j'ai pas encore inventé ma danse, mais moi j'adore faire des danses traditionnelles et surtout des danses d'épées écossais. Pour ça on a besoin de deux épées qu'on croise par terre, avec les enfants je prends des bâtons, et puis on fait des figurines de plus en plus compliquées, rapides, au-dessus des épées, bien sûr sans se prendre les pieds dans les épées. Ceci pour motiver les garçons. Hein. Si vous n'êtes pas trop danse, peut-être qu'une danse des épées, ça pourrait vous motiver.
Oui, ça serait un peu comme une danse du guerrier, mais sans se battre, avant de se battre, hein, on dirait.
Exactement. Emmanuel, est-ce que vous dansez aussi?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais jeune, j'étais tout à fait fascinée par la danse classique. Pas tellement à cause de la musique, mais vous savez, la particularité de la danse classique, c'est que les danseuses chaussent des chaussons pointes et qu'on dit qu'il y a des figures qui sont accomplies à partir de la pointe des pieds. Et c'est très particulier, c'est vraiment une performance physique incroyable de danser sur les pointes grâce à ces chaussons qui ont des bouts rembourrés. Vous pouvez aller voir les enfants sur Internet si vous tapez danse classique sur les pointes. C'est extrêmement particulier. Je ne connais pas d'autres danses d'ailleurs que la danse classique occidentale où on danse sur le bout des doigts de pied grâce à ces chaussons. Ça demande aussi une grosse force musculaire dans les jambes, dans les chevilles, parce que sinon on peut tout à fait d'ailleurs se blesser.
Oui, tout à fait. Ben, rien à voir avec la danse des épées que j'ai pratiquée. Pour d'autres sortes de danses, on a aussi besoin des souliers spécifiques. J'ai dansé le flamenco, par exemple, danse espagnole. Et puis là aussi, on a des souliers qui claquent par terre et qui font du bruit aussi pour faire cette danse.
Alors, donc les enfants, ce que vous suggérez, Sarah, c'est qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leur imagination, voire même qu'ils se dépensent beaucoup physiquement avec cette danse.
C'est ça, parce que on va faire un peu de sport, vu qu'on a la semaine santé sportive et bien-être. Donc, pensez d'intégrer dans votre chorégraphie des mouvements très différents. Par exemple, des sauts. Des pirouettes, donc vous tournez autour de vous, des mouvements, pas que des pieds, mais aussi des bras, des têtes, des mains, donc pensez à tout le corps, et puis bien sûr aussi des acrobaties, si vous pouvez les faire.
La danse, c'est vraiment, il faut bien le rappeler, l'utilisation de tout le corps.
Oui, tout à fait, ça c'est important. Et puis bon, pour que vous n'êtes pas trop essoufflé, c'est pas nécessaire de danser et chanter en même temps. Hein. Si vous avez un appareil qui peut vous donner cette musique de danse, donc vous pouvez bien sûr juste danser sur la musique de boîte, parce que c'est assez sportif de faire les deux ensemble. Je vous parle de mon expérience personnelle.
Ouais. Et puisqu'on disait qu'on pouvait danser avec tout le corps, je me souviens d'une danse indienne dans le sud de l'Inde où on roule les yeux. Hein. Il y a d'autres danses d'ailleurs, on utilise les yeux. Et le mouvement des yeux qui roule, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la chorégraphie. Sarah, je voudrais qu'on écoute encore un dernier message qui a été posté par John de Lubumbashi, qui a pris le risque lui aussi de chanter pour 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Alors je crois que c'est chanté en langue Lunda ou Rund, si je prononce bien. Le sens de cette chanson, John nous l'a donné, elle parle de la jalousie de deux co-épouses qui, en fait, malgré les apparences, se détestent et se disputent énormément dès que le mari n'est pas là. Voilà, et ça c'était la chanson de John, merci beaucoup. Et bien évidemment, vous pourrez continuer à poster, surtout les enfants. Dites-nous quelles sont les découvertes que vous avez pu faire à partir d'une chanson traditionnelle. Si vous pouvez nous envoyer la traduction intégrale, ça serait formidable. Et avec, bien sûr, la chanson que vous enregistrez sur WhatsApp. Et puis, s'il y a une vidéo avec la chorégraphie qui va avec, alors là, c'est 20 sur 20. Enfin, je ne sais pas si vous mettez des notes, vous, hein, Sarah Chou. À mon avis, vous n'aimez pas mettre des notes.
Ça se fait de moins en moins, en fait. C'est mieux qu'on met des notes, mais parfois à l'école on est quand même obligé. Mais une note, ça va jamais tout seul. Hein. On écrit aussi en commentaire ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qui a amélioré, etc.
Voilà. Et chez nous, en tout cas, il y a toujours des bravos hein, à l'école, à la radio. Finalement, Sarah, pendant cette séance, si vous avez bien écouté les enfants, vous pouvez faire des langues hein, avec les traductions de chants en langue française ou dans une autre langue. On a chanté, on a dansé, on a imaginé, on a inventé, on a créé.
C'est tout ça. Et puis, on s'est exprimé dans différentes langues, même avec le corps, et puis avec le chant, les textes qu'on traduit, qu'on parle aussi. Voilà.
Et demain, Sarah, retour des mathématiques.
Oui, retour aux mathématiques avec des arbres extraordinaires. On va travailler là-dessus. Vous avez comme toujours besoin de la feuille, du crayon, de la gomme. Et pour les 8-10 ans, vous avez besoin de quelque chose de rigide. Par exemple, un bâton qui fait exactement la taille de votre bras.
Alors, on va bien répéter parce que certains enfants aussi nous disent « Ah, j'ai pas toujours le matériel avec moi ». On fait très attention, les enfants, à ce que vous n'ayez besoin que d'objets très très simples. Hein. Donc, bien sûr, papier, crayon, ardoise ou craie, des crayons de couleur. En général, on essaye de pas trop vous demander des crayons de couleur parce que pour certains, c'est pas toujours évident de se procurer des crayons de couleur. Mais en général, vous avez des craies de couleur, donc ça peut marcher. Et pour demain, donc, sur cette leçon de mathématiques à partir d'arbres extraordinaires qui ont un très large tronc, il y aura des calculs de diamètre, de circonférence,
de hauteur aussi,
feuilles, crayons, gomme, et puis pour les 8-10 ans, donc les 8-10 ans, un bâton qui fait exactement la taille de votre bras. Je pense que ça, vous allez pouvoir trouver. Évidemment, l'idéal, ça serait une branche d'arbre ou quelque chose comme ça que vous pouvez retailler en fonction de la taille de votre bras. Ne vous blessez pas, attention, en taillant le bâton. Et vous allez apprendre demain, les enfants, comment calculer la hauteur d'un mur de votre maison, par exemple, sans aller vous percher jusqu'en haut avec un mètre, parce que ça serait compliqué, comme vous êtes petit, en plus, d'aller jusqu'en haut, mais simplement en vous allongeant par terre avec un bâton. Je ne vous en dis pas plus, ça semble assez mystérieux comme ça, et il faudra attendre jusqu'à demain. Sarah, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer avant qu'on se quitte et qu'on vous laisse profiter de cette belle journée au village, pas loin de la montagne où vous êtes, Sarah?
Juste, bon spectacle avec vos chansons et vos chorégraphies de danse que vous pouvez bien sûr, si vous êtes plusieurs enfants, frères et sœurs, créer ensemble et puis présenter à vos parents le soir.
Ouais. Et n'oubliez pas de poster vos vidéos, vos messages audio, vos dessins, tout ce que vous voulez au 33 1 84 22 71 71. Et surtout, dites-nous ce que vous avez appris à partir de vos recherches, bien sûr, parce qu'il y a du jeu, mais il y a aussi de l'apprentissage. Merci à vous, Sarah. Très belle journée. à vous et à toute votre famille. Dans quelques instants, l'histoire du jour, l'arbre à merveille. Mais tout de suite, une petite merveille musicale qu'on vous a réservée rien que pour vous. C'est Nicolas Benita qui fait le programme musical pour danser, pour rêver avec des stars. Gérald Toto, Loco Akanza et Richard Bona. Ma mama.
Si moi aimer depuis nani nana, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour tout. Oh non non,
mama,
les mots qu'à songer on peut pas.
Devenir créatif, imaginatif pour vous les enfants et retourner dans votre petit coin, espace personnel, nature, avec cette chanson Richard Bona, Loco Akanza, Gérald Toto, Ma Mama. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auréa, l'arbre à merveille.
Je vais peut-être inventer une histoire.
Il était une fois...
L'arbre à merveille. Une histoire écrite par Vincent Nomeau. Il y avait longtemps que la pluie n'était pas tombée à Borongo, le village du petit Ahmed. Les rivières étaient sèches comme le sable autour. Un matin, Iya, le grand frère d'Ahmed, est parti loin dans le désert chercher de l'eau et du bois pour préparer le couscous. Pendant des jours, Ia et Boubou, son âne, marchent sous le soleil brûlant. Partout, ils ne voient que du sable et le ciel sans nuages. Ia se souvient. Il y a longtemps, très longtemps, il y avait beaucoup d'eau et d'arbres à Borongo. Tout était vert et les gens étaient gais. Petit à petit, ils ont coupé les arbres et le sable du désert a recouvert le village. Tout à coup, Ia aperçoit un arbre au milieu du désert. Il est si grand et si touffu que l'herbe pousse à ses pieds. Ses branches sont couvertes de feuilles et de fruits. Ia est tellement heureux qu'il s'écrie « Quel arbre merveilleux ! Goûtons à ces merveilles !» Ia cueille quelques fruits et s'assoit, épuisé, dans la fraîcheur de l'arbre. Les fruits sont juteux, sucrés comme le miel, bons comme le pain. Pour apaiser sa soif, Ia boit l'eau qui coule des lianes. À côté, Boubou l'âne, sans bruit, broute l'herbe grasse. Ia s'endort doucement, bercée par le bruit du vent dans les feuilles. Ia est rentrée au village, impatient de raconter son histoire. J'ai vu un arbre qui pousse sur le sable du désert. Son tronc est grand, comme ça. Les habitants de Borongo écoutent attentivement l'histoire d'Ia. À la fin, Olambani, le plus vieux, dit
« Ramenons cet arbre et ses merveilles au village. Grâce à lui, nous n'aurons plus soif et nous ne manquerons plus jamais de bois. »
Tout le village accompagne Ia dans le désert. Une fois au pied de l'arbre, les hommes essaient de le déplacer. Creuse, tire, pousse. Rien à faire, l'arbre ne bouge pas. Ses feuilles chatouillent toujours le ciel bleu et ses racines vont toujours loin, loin dans le sable. Il est plus solide que le roc. De retour au village, tout le monde est d'accord. Si la force ne peut rien contre l'arbre, il nous reste la magie. Allons voir Gonadieu, le sorcier. Gonadieu est puissant. Il peut guérir les malades. On dit aussi qu'il peut transformer un petit enfant en grenouille. À la nuit tombée, Gonadieu s'est rendu au pied de l'arbre. Avec de très vieux gris-gris, il a parlé aux esprits. Puis il a joué du tambour magique des ancêtres et les gens ont chanté longtemps. Avant de partir, Gonadieu a dit
« Dans 9 jours, l'arbre viendra au village !»
L'attente est longue. Pendant 9 jours, les paysans de Borongo rêvent que l'arbre à merveille est au milieu du village. C'est de nouveau la joie de paresser, de lire, de causer sous son ombre douce et reposante. Le 9e jour, Ia se lève très tôt pour voir l'arbre. Celui-ci n'a pas bougé. Il est toujours au même endroit, défiant le soleil du désert et les hommes. Ia réfléchit. Puisque l'arbre n'est pas venu au village, reconstruisons notre village autour de l'arbre. C'est alors que le petit Ahmed prend la parole.
Regardez, des petits arbres à merveille ont poussé dans mes pots.
Pendant que les gens du village essayaient de déplacer l'arbre, sans rien dire, Ahmed ramassait ses graines pour les planter. Il existe toujours un moyen d'amener le bonheur chez toi.
À
la mise en onde, Nicolas Benita, avec la voix d'Héloïse Auria. L'Arbre à merveille est une histoire écrite par Vincent Nomo, qui est publiée aux éditions Akomamba, au Cameroun.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Et maintenant, nous retrouvons le coach Didier Akwété, président d'Afrique Search. Vous répondez à des questions d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous relisez vos manuels d'économie aussi accessoirement à la lumière de la crise du Covid-19 parce que de nombreuses entreprises sont en difficulté, mais pas toutes. Alors bien sûr, il y a celles qui tirent leur épingle du jeu en vendant des masques notamment, mais aujourd'hui un message intéressant posté par un entrepreneur agricole, Parfait Amundou, la capitale économique du Tchad.
Bonjour, je suis Parfait, je vous appelle de Mundou au Tchad. J'ai cofondé il y a 5 ans une entreprise avec mon frère aîné. Et notre entreprise est spécialisée dans la production de céréales et des fruits et légumes. Nous produisons actuellement sur 25 hectares du céréal, le maïs, le sorgho et le pénicillaire. Et sur 2 hectares, nous produisons uniquement des fruits et légumes. Face à la pandémie Covid-19, nous avons jugé utile de pouvoir d'apporter notre contribution aux femmes et aux couches vulnérables afin de leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins et trouver de quoi se nourrir. Pour y arriver, nous nous sommes mis donc en partenariat avec l'ONG Mavi, qui est une ONG des femmes, qui accompagne les femmes à s'autonomiser par les activités génératrices de revenus. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, nous formons ces femmes-là en différentes techniques de production agricole et comment gérer leur activité génératrice de revenus. Une fois ces formations reçues, une partie des femmes prennent nos fruits et nos produits, j'allais dire, et ils les commercialisent. Et ma question est de savoir, est-ce que ce partenariat doit continuer après donc la pandémie Covid-19? Merci.
Alors, ce partenariat donc d'un producteur de fruits, de maïs, de légumes, de sorgho, comment est-ce qu'on peut le qualifier, ce partenariat, Didier Akwété, pour mieux répondre aux interrogations de cet entrepreneur?
Non, en fait, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a une dimension, on dit, mais philanthropique et sociale, et une dimension commerciale. Donc c'est une coopération qui n'est pas en guillemets naturelle, mais qu'on peut qualifier de business social. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aussi fait du bien à sa communauté, et en temps normal, on peut même dire, quand on est une grosse entreprise, que c'est une forme de responsabilité sociale des entreprises. Vous savez, la fameuse RSE qui consiste effectivement à bien sûr faire du profit, mais aussi à faire du bien, à impacter sa communauté, à protéger son environnement. Donc, c'est un exemple que je trouve extrêmement intéressant pour une petite entreprise, parce que je suppose que son entreprise n'est pas une multinationale. Enfin, mais je trouve que c'est une approche qui est assez originale, et en plus qui touche les femmes. Hein, vous savez, actuellement, la problématique du gender est extrêmement importante, le développement des femmes, l'accompagnement. Donc, je trouve que c'est très intéressant.
Et qui s'est déclenché finalement à la faveur des menaces de crise alimentaire à cause de la crise du Covid-19. Mais alors, du coup, en quoi ce partenariat peut avoir un intérêt pour les deux parties, c'est-à-dire du côté ONG et du côté de l'entrepreneur agricole?
Finalement, ouais, c'est pas un mariage aussi insolite que ça pour l'entreprise ou la coopérative, ça lui permet finalement d'accéder à d'autres marchés, puisque ces femmes commercialisent les produits de cette entreprise. Donc, il y a un débouché commercial nouveau pour l'entreprise et pour l'ONG. Ça lui permet aussi d'avoir accès à une matière agricole qui permet de générer des revenus pour les femmes. En plus, ils forment les femmes. Donc, ils sont en ce qu'on appelle, malheureusement, en langage un peu bancondial, en renforcement de capacité, mais aussi de nouveaux revenus pour ces femmes qui peut-être n'en auraient pas eu si cette entreprise n'avait pas été là. Donc c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant pour l'un et l'autre, à mon avis. Mmh.
Alors en même temps, forcément, ça prend du temps à l'entrepreneur de former ses femmes. Hein. Ça n'est pas une main-d'œuvre abondante qui arrive comme ça directement, utilisable sur les surfaces de culture, hein, les 25 hectares d'exploitation. Quel serait l'intérêt de faire perdurer ce partenariat après la crise et puis comment aussi le faire évoluer ?
Alors, ce partenariat peut être intéressant parce qu'en réalité, ce qui aujourd'hui apparaît pour cette entreprise comme une sorte de soutien social à ces femmes, on peut en faire un vrai business parce que ces femmes, en réalité, peuvent tout à fait aller voir d'autres ONG, donc d'autres regroupements de femmes, et imaginez qu'aujourd'hui, dans cette ONG, elles sont 50, peut-être demain, elles seront 200, 300, 500, 1000. Qui, à leur tour, peuvent tout à fait aller revendre à d'autres femmes, à d'autres coopératives, voire même proposer ces produits à des supermarchés, à des entreprises, à des restaurants, etc. Donc vous imaginez le réseau de distribution en réalité que l'entreprise est en train de créer avec ces femmes, qui elles-mêmes peuvent se regrouper ensuite en petites PME, hein, pourquoi pas, et aujourd'hui sous la forme d'ONG, mais ces femmes peuvent tout à fait créer des PME derrière qui font de la distribution, voire de la transformation de produits agricoles. Donc, c'est un partenariat qui peut être construit différemment et ensemble, ils peuvent même aller chercher, lever de l'argent pour donner une dimension complètement différente à ce petit business qui aujourd'hui est encore peut-être à l'étape de TPE et en faire un champion dans leur pays avec une ramification extraordinaire qui peut couvrir le territoire. Mmh. Donc vous partez d'un point A et vous irradiez tout un territoire qui permet finalement à chacun de devenir une entreprise à part entière. Mais alors, tout en gardant le concept de la RSE, concept social.
Oui, oui, on a bien compris le principe, mais il ne faut pas non plus que le bout de la chaîne devienne plus important que la capacité de production de Parfait, puisque Parfait nous dit qu'il a une exploitation de 25 hectares, ce n'est pas non plus énorme. Pour du maraîchage, c'est déjà une belle surface, mais pour des céréales, ce n'est pas non plus très grand. Donc là aussi, il y a toute la problématique de il faut pouvoir produire.
Mais c'est la bonne nouvelle pour Parfait. Si Parfait va voir son banquier ou sa tontine en disant « J'ai 1000 femmes qui peuvent distribuer 10 fois ce que je produis aujourd'hui, regardez, le réseau existe », on n'aura pas de mal à le financer parce qu'on sait qu'il n'a pas de problème de débouché.
Pour acheter des terres et du matériel, sous-entendu.
Bien sûr, réformer, mécaniser, semi-industrialiser, donc Parfait. Pas c'est notre dimension, parce que vous savez le problème de beaucoup de nos agriculteurs, ce sont les débouchés. Vous voyez quand les mangues pourrissent au bord des routes après les récoltes, on les jette, moi-même quand j'en achète, là, l'autre fois encore à Damien, j'ai jeté la moitié parce qu'elle pourrit, j'ai pas de... Donc si vous avez des débouchés, vous imaginez le potentiel que ça fait pour Parfait. Et donc Parfait change de dimension et change aussi la vie de ces femmes qui deviennent des vrais entrepreneurs dans le cadre de ces ONG. Voilà. Donc c'est plutôt un partenariat, à mon avis, porteur sur la durée, qu'ils arrivent à mieux le construire et à créer un consortium autour de ça.
Je repensais, Didier, il nous reste quelques secondes, mais à cette chronique que vous nous aviez présentée à l'antenne sur la chaîne de valeur, est-ce que là, on peut parler de chaîne de valeur dans le cas d'espèce à partir de ce partenariat qui... Est-ce que ça vient agrandir la chaîne de valeur d'un simple producteur agricole au départ ?
Ah, définitivement. Là, il est en train de rentrer dans sa chaîne où il est un simple producteur, il va peut-être se transformer, il distribue déjà, donc vous voyez, il est en train de créer une chaîne de valeur autour de ses produits.
Et dégager, et donc, dégager de l'argent, et dégager donc des bénéfices, pas seulement sur le point de la production.
Exactement. Là, il va trouver de quoi générer des revenus sur chaque partie de la chaîne, sur la production peut-être, sur la transformation, sur la distribution, etc. Donc, Parfait commence à créer une chaîne et à gagner de l'argent sur chaque partie de la chaîne.
Et c'est bien parti. Eh bien, merci beaucoup Didier Acoté pour cette réponse très complète. Vous avez compris, les entrepreneurs, les entrepreneuses, les jeunes start-upers, c'est le moment. Posez vos questions avec un message bien synthétique, bien structuré pour bien exposer ce que vous faites et les questions à laquelle Didier Acoté pourrait apporter un éclairage. 33 1 84 22 71 71, c'est le compte WhatsApp de l'émission à ne surtout pas oublier. Merci beaucoup, très bonne journée à vous Didier Acoté.
Merci Manuel.
Et quant à nous, on se retrouve demain pour l'école à la radio avec toute l'équipe de 7 milliards de voisins.